un village, minuit sonne. Un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Et sa main velue s'accompagne d'une chanson.
Auditrice, auditeur, amis, citoyens, camarades, bonjour. Cette chronique est enregistrée vendredi 14 février en raison de l'indisponibilité du studio de RLP lundi 17 février au moment de la diffusion de la chronique du groupe Fred Zeller chaque semaine, donc le lundi à 11h30. Cette chronique, je vous propose un article qui a été publié sur le club Mediapart au sujet du livre de Franck Frigosi « Gouverner l'islam en France ». L'ouvrage de Franck Frigosi est remarquable par sa précision et un formidable outil pour comprendre et, comme on ne pense jamais pour rien, pour agir aussi. Lecture plus que recommandée pour qui cherche à comprendre. Sans flatterie aucune, cet ouvrage est remarquable et je pense qu'il va devenir incontournable pour celles et ceux qui s'intéressent à la question de l'islam en général et de son « organisation » entre guillemets en France. Il détaille avec précision les structures de l'islam, ses intervenants, les questions posées et le rôle du pouvoir, quel qu'il soit, dans les vaines et stupides tentatives entre guillemets d'organiser l'islam en France pour en faire un entre guillemets également, islam de France, alors que le réalisme, allié à la démocratie et à la laïcité, ne pourra jamais déboucher, au mieux, que sur la reconnaissance du fait musulman en France et non de France. Tous les gouvernements, de droite comme de gauche, et encore là avec des guillemets, ont essayé d'instituer une organisation du culte musulman et tous ont échoué et tous échoueront dans le futur. L'ouvrage le montre bien, c'est l'impossible quadrature du cercle. Cela rejoint totalement l'analyse de toujours de la libre pensée. Il n'y a pas un culte musulman, mais des cultes musulmans. Y interfèrent non seulement des sensibilités religieuses différentes et très opposées, mais aussi des pays différents et concurrents, sans compter les enjeux de pouvoir inhérents à toute structure dite représentative et les querelles de personnes qui ne sont pas rien dans tout ce fatras gouvernemental ou religieux. Pour voir la mosaïque contrastée de ce qu'est l'islam, en France comme ailleurs, sur la question du voile, selon telle ou telle lecture du Coran, certains théologiens sont pour tout cacher et d'autres pour ne pas tout montrer. Ce qui, sur le terrain, ne donne pas du tout la même chose. Les salafistes refusent toute incursion dans le champ politique, contrairement aux frères musulmans, qui ont avant tout un projet politique. Certains musulmans, dits les coranistes, certes minoritaires, ne reconnaissent que le Coran et non les hadiths et la sunna, interprétation du Coran. Ils ont la même conception que les protestants pour la libre interprétation du livre saint. Certains distinguent, et d'autres non, la fatwa positive et la fatwa négative. D'autres ajoutent la fatwa institutionnelle qui ne concerne que l'individu et non la communauté. La fatwa négative, non-réponse, peut conduire à des contre-fatwas qui rendent caduques d'autres fatwas. Il y a aussi la fait al-aqiyya, jurisprudence des minorités, qui traite de la situation légale des minorités musulmanes vivant en dehors du monde musulman, qui accepte l'adaptation de l'islam et de sa pratique aux droits communs des sociétés, notamment occidentales, dans lesquelles vivent ces musulmans. Au vu de cette diversité multiple, comment unifier tout cela dans un seul culte? Il ne reste alors que la voie autoritaire pour essayer d'imposer une vision unique pour n'avoir qu'un, entre guillemets, culte musulman de France. Tour à tour. Le pouvoir essaya la solution algérienne, puis marocaine, puis à nouveau algérienne, avec un soupçon de Turquie et un zeste d'Arabie Saoudite et de Qatar. Le cocktail est explosif. Le cours actuel de la Macronie contre l'Algérie et de séduction du Maroc à propos du Sahara occidental va encore compliquer les tentatives et pulvériser la volonté du pouvoir d'avoir un interlocuteur. Mais ce n'est pas n'importe quel interlocuteur qui est recherché. Pas un représentant des musulmans vis-à-vis du gouvernement, mais un domestique subsidié représentant le gouvernement auprès des, entre guillemets, musulmans. Ce n'est pas pour rien que toutes les tentatives soient pilotées par le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire par la police, car le musulman est présupposé terroriste par nature et par essence. Je me souviens de l'avoir dit naguère avec force et vigueur dans un débat organisé par la municipalité de Lens dans le Pas-de-Calais, à Dalil Moubalker. Il n'avait pas du tout apprécié qu'on le traite d'agent de police, car c'est quand même un peu de cela qu'il s'agissait. Le public, dans lequel il y avait visiblement beaucoup de gens ordinaires, originaires du vin maghreb, de plusieurs générations et plein de jeunes, barbus ou non, femmes voilées ou non, en djellaba ou en lewis, avait beaucoup ri et apprécié ma prestation de libre penseur au grand dam du recteur de la grande mosquée de Paris, qui, lui, ne riait pas. Un concordat laïque avec l'islam, tous les gouvernements, se prenant pour Napoléon Ier et la main dans le gilet, veulent rééditer le coup de Bonaparte avec la religion israélite, imposée par la force, la suppression d'éléments religieux qui ne lui plaisaient pas dans la Torah et le Talmud et dans l'exercice de culte. Ce qui était possible en 1808 avec le judaïsme ne peut l'être aujourd'hui avec l'islam pour les raisons évoquées ci-avant. Une multitude de cultes et l'ingérence de beaucoup de pays arabes, ce qui n'était pas le cas pour le judaïsme, qui ne pouvait pas avoir une dimension diplomatique et, pour cause, aucun pays n'aurait pu le faire à l'époque. C'est la tentation concordataire permanente. Rappelons qu'un concordat est un accord diplomatique entre la cité du Vatican, dénommée pour la circonstance Saint-Siège, et, quoi qu'on en pense, du fait de l'organisation de l'Église catholique, supranationale, centralisée hiérarchiquement et autoritaire, il y a bien un interlocuteur possible. Dans le cas de l'islam, c'est une auguste fadaise que d'envisager une telle chose. Le concordat musulman est une chimère à laquelle tous les gouvernements ne courent sans jamais avoir le moindre espoir de la rattraper. Tout cela est remarquablement démontré par l'auteur, qui remarque aussi tous les vices d'un tel impossible projet. C'est un véritable régal à découvrir. Rien ne me semble oublié, et au passage, les islamologues professionnels, la botte du pouvoir, et qui en vivent bien, en prennent largement pour leur grade. Pour compléter l'ouvrage et pour rire un peu ou même beaucoup, je vous conseille de regarder la parodie hilarante de CNews sur l'imam Hassan Chalgoumi. C'est plus vrai que nature et à peine exagéré. Donc, Franck Frigosi, donc, est l'auteur du livre Gouverner l'islam en France, et dont je vous lis la note de lecture écrite par Christian Echen. Franck Frigosi présente avec force détail les différentes personnalités qui jouent dans la même cour et qui courent pour rattraper le Mickey des décorations officielles et des subsides, officiels ou pas. Tout est bon à prendre pour eux. Il fait aussi un descriptif des forces politiques et associatives qui agissent sur une ligne totalitaire et xénophobe et pseudo-laïque, comme le printemps républicain et la galaxie de tous ceux qui ne représentent rien et qui s'agit d'autant plus pour faire croire le contraire. Les génies villages autrement proclamés veulent faire dire à la laïcité et à la loi du 9 décembre 1905 strictement le contraire de leurs principes de liberté et qui parlent du code de la laïcité pour en fait les nouveaux codes pénals toujours plus répressifs. L'auteur, Franck Frigosi, pose la véritable question centrale. Est-ce à une république dite laïque d'organiser une religion? Dès le point de départ, l'échec est inévitable pour cela. Quelle est l'efficacité d'une telle politique contradictoire avec les principes de laïcité pourtant mis en avant? Ne serait-il pas temps d'accorder un rôle aux imams, hommes de terrain jamais consultés, et au culte une indépendance d'organisation dont bénéficient les autres religions? Des contradictions permanentes. L'auteur, Franck Frigosi, montre en détail que pour l'organisation d'un culte musulman, les tentatives vont toujours du haut vers le bas et jamais du bas vers le haut. Jamais non plus les imams n'ont été conviés aux discussions et les fidèles ont encore moins voix au chapitre. C'est le modèle catholique qui est promotionné. Le concordat musulman est donc tout à la fois vertical, autoritaire, anti-laïque et anti-démocratique, et là, véritablement, par nature et par essence. Il n'a donc aucune chance de voir le jour. L'auteur montre aussi très bien la valse hésitation du pouvoir qui, un jour, favorise une organisation de l'islam, très centralisée et verticalement, et qui l'autre jour l'attend à l'horizontale, par région, sans jamais obtenir quelque chose et dont on peut appliquer la formule de Clémenceau, c'est une politique qui ne satisfait personne et qui énerve tout le monde. À croire que Rochefort aussi avait raison. La France est un pays qui compte des millions de sujets, sans compter les sujets de mécontentement. Et avec toutes ces tentatives vouées à l'échec, il n'en manque pas. La tentative d'un islam organisé à l'horizontale, par la création du comité départemental du culte musulman, va déboucher sur la constitution d'à peine une vingtaine de structures sur 101 départements. Les ministres des gouvernements ne pourront jamais prendre le pas sur les ministres du culte en matière religieuse. On ne peut pas mélanger l'eau et l'huile. Pourtant, plus l'impossibilité théorique et pratique se manifeste dans un tel projet, plus les gouvernements haussent le ton et répriment de plus en plus. C'est à cette aune-là qu'il faut comprendre les renommantades sur la fin de l'islam consulaire, ce qui restera longtemps un vœu pieux, car pur si mauvais. Et pourtant, elle tourne, Galilée à son procès par l'Inquisition. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans le rapport parlementaire issu du Sénat en 2016, il est indiqué que le Maroc verse annuellement 6 millions d'euros pour financer la pratique de l'islam en France, l'Algérie 4 millions, l'Arabie Saoudite près de 4 millions, la Turquie salarie 151 assistants imams, l'Algérie 120, le Maroc 30 et l'Arabie Saoudite 5. La Grande Mosquée de Paris reçoit annuellement 2 millions d'euros. Qui peut croire que les coups de menton d'Emmanuel Macron pour remplacer cette manne financière. La folie furieuse de Gabriel Attal sur l'interdiction de l'abaya n'est qu'une posture médiatico-politique. Là aussi, depuis quand une république dite laïque détermine ce qu'est un vêtement religieux pour le prohiber? Rappelons ce que disait Aristide Briand à l'Assemblée nationale lors du débat parlementaire sur la séparation. L'un des pères de la loi de 1905 avec Ferdinand Buisson et Jean Jaurès, les trois étant libres penseurs. Messieurs, au risque d'étonner l'honorable Monsieur Chabert, je lui dirai que le silence du projet de loi au sujet du costume ecclésiastique lui paraît le préoccuper si fort, n'a pas été le résultat d'une omission, mais bien au contraire d'une délibération mûrement réfléchie. Il a paru à la Commission que ce serait encourir pour un résultat problématique le reproche d'intolérance et même s'exposer à un danger plus grave encore, le ridicule. Que de vouloir, par une loi qui se donne pour but d'instaurer dans ce pays un régime de liberté au point de vue confessionnel, imposer aux ministres des cultes l'obligation de modifier la coupe de leurs vêtements. Je ferai du reste observer à l'honorable M. Chabert que le problème n'est pas aussi simple ni aussi facile à résoudre qu'il semble le supposer. Ce que notre collègue voudrait atteindre dans la soutane, c'est le moyen qu'elle procure de se distinguer facilement des autres citoyens. Mais la soutane, une fois supprimée, M. Chabert peut être sûr que, si l'Église devait y trouver son intérêt, l'ingéniosité combinée des prêtres et des tailleurs aurait au fait de créer un nouveau vêtement qui ne serait plus la soutane, mais se différencierait encore assez du veston et de la redingote pour permettre aux passants de distinguer au premier coup d'œil un prêtre de tout autre citoyen. Tout était dit, et pour longtemps. Il en est de même de la loi du 24 août 2024, dite loi séparatisme, qui s'allie et complète dans le même temps la loi sécurité globale ou deux lois liberticides. Il forge une chaîne et l'appelle liberté, Victor Hugo en 1850, contre la loi du vicomte de Falloux qui livrait l'enseignement public au clergé catholique. Comme, dit Christian Eschen, comme je l'écrivais à propos d'un autre ouvrage sur la loi Stasi 20 ans après, la loi séparatiste, dont la loi Stasi ne fut que les prolégomènes, a fait bouger les lignes, car la loi de 2021 est une loi de sécularisation forcée de l'islam. L'objectif est clairement fixé, faire disparaître du paysage collectif et privé toute présence de l'islam et surtout des musulmans qui sont relégués par nature et par essence à la portion congrue à la table de la République. Sur fond d'un lourd passé colonial. C'est une loi totalitaire et xénophobe. Les étrangers peuvent être présents en France à condition qu'ils disparaissent en tant que tels. C'est une loi de survivance du colonialisme où, entre guillemets, l'indigène avait une injonction permanente, être comme les maîtres colonisateurs ou n'être rien. C'est ce que démontre avec une très grande clarté Olivier Lecour Grand-Maison dans son ouvrage de 2024, Racisme d'État, État raciste, une brève histoire. Comment alors s'étonner que les colonisés, se libérant, leur aient renvoyé l'ascenseur par la valise ou le cercueil? On ne récolte peu ce que l'on a semé. Tout comme la formule sur le régime de Vichy, le temps béni des colonies, entre guillemets, est un passé qui ne passe pas. La réaction et les réactionnaires qui veulent éradiquer l'islam et les musulmans de notre beau pays et douce France sont animés par un racisme et une xénophobie, au goût certain de revanche d'avoir été chassés des colonies par les Fedayins. Pourtant, la question de l'islam en France aujourd'hui est le pur produit de la politique impérialiste et colonialiste d'hier de la France. Là aussi, on ne récolte peu ce que l'on a semé. Si les colons français n'avaient jamais colonisé des pays entiers, en opprimant, massacrant, exploitant, volant les peuples, il est certain que la question de l'islam et des musulmans se poserait tout à fait différemment aujourd'hui. La question, qui n'est pas mineure, de la grande mosquée de Paris, que beaucoup ont voulu montrer en exemple et surtout en faire le leadership de l'islam de France, est bien analysée. L'origine vient d'Allemagne, où pendant la Grande Guerre de 1914-1918, les Allemands, dans un effort de propagande vis-à-vis des colonisés et de leur propre empire, firent construire une mosquée dans le camp de prisonniers de Zossen, où étaient emprisonnés des soldats musulmans de l'armée française. Pour ne pas être en reste vis-à-vis des empires allemands et anglais, le gouvernement français lança ce projet à la fin du conflit. La Grande Mosquée de Paris va percevoir en 1922 un terrain de 7000 m² de la ville de Paris et attribuant l'équivalent de plusieurs subventions de millions de francs et l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, sous leur forme coloniale de l'époque, sont priés de passer à la caisse pour aussi la financer. Enfin, les musulmans sont sollicités pour faire des offrandes nombreuses et souvent. Ceci, hein, c'est la Grande Mosquée de Paris qui va apercevoir cela en 1922. À partir de la nomination d'Amitha Boubacar par Guy Mollet à la tête de la Grande Mosquée de Paris, elle va devenir la pièce maîtresse d'un dispositif de l'œuvre coloniale française et servir de contrepoint au développement du mouvement national algérien. En 1967, trois pays du Maghreb font un recours ensemble qui n'aboutira pas pour contester cette nomination. Gérald Darmanin va tenter de mettre à sa botte les différentes structures musulmanes par l'obligation de la signature de la Charte des principes pour l'islam de France, mais plusieurs d'entre elles refuseront, ce qui ajoutera de la confusion au désordre. Elles subiront une forte répression et seront éjectées de toute procédure de consultation. Avec cette fadaise d'islam républicain et ses méthodes de barbouze, chantage, corruption, répression, on est décidément bien loin de la séparation des religions et de l'État et du libre exercice du culte, comme l'a défini la loi du 9 décembre 1905. Quand l'État se mêle d'organiser les religions, ce n'est jamais bien propre. Il s'agit bien, comme l'analyse Franck Ferigosi, de la tentative de bâtir, citation, une bureaucratie du culte, qui s'accompagne toujours d'une police du culte, par le biais, notamment, les dissolutions et le tout l'arsenal répressif de la loi séparatisme. L'auteur s'interroge très justement. L'imam, vigile de la République ou gendarme des musulmans? Le pouvoir utilise aussi largement l'argument du financement de l'étranger, qui ne se monte pourtant qu'à 20% dans le financement de l'islam en France, selon le rapport parlementaire déjà cité. Ce qui veut dire que ce sont les musulmans en France qui financent plus des trois quarts des dépenses. Ajoutons que cette phobie de l'argent étranger ne s'applique jamais quand il s'agit du Vatican ou des églises évangéliques, par exemple. Et puis l'islam républicain, entre guillemets, me fait toujours penser à ce que disait mon père quand il essayait d'expliquer quelque chose de compliqué. Cela doit être encore un coup des bonnes sœurs communistes, ce qui nous faisait toujours bien rire. On arrive par là à une question aussi essentielle, que doit-on demander à l'islam? L'islam ne peut être que l'islam. Et cela suffira à son bonheur, tout le reste est une tartufferie et un appât pour la chasse au canard. On n'a jamais rien demandé à l'Église catholique, on a fait la loi de 1905, il suffit de la respecter et les choses se feront comme pour les autres cultes. Ajoutons aussi une bonne dose de mépris pour propager l'aphorisme, souvent de manière hypocrite mais pourtant bien réelle, « Islam, islamiste égale terroriste. Des islamologues autodésignés et quelque peu nauséabonds comme Mohamed Sifawi défendent la théorie complaisamment reprise par les médias mainstream de la taqiya, c'est-à-dire la dissimulation dont feraient preuve les islamistes. Ils ont beau dire, nier et dénoncer les attentats terroristes, le concept précède la preuve, il manque et il truque. Certains rapports, comme celui de l'Institut Montaigne, pourtant si proche du pouvoir, indiquent que 46% des musulmans sont totalement sécularisés, que 26% sont les observants pragmatiques, à la fois pieux et acceptant la laïcité, et que 28% ont des valeurs autres que celles de la République, ce qui en démocratie est parfaitement leur droit. On ne peut admettre la liberté de conscience et celle et exiger pardon que tout le monde pense pareil ou soit adepte de l'idéologie d'État définie par la loi séparatisme. La République, c'est vrai, a toujours eu la grandeur d'accepter ceux et celles qui ne la reconnaissent pas, sinon il faudrait interdire les royalistes qui, par définition, ne peuvent se reconnaître dans les valeurs de la République. Islamophobie ou racisme anti-musulman? Terminons cette recension en débattant sur une formulation non absente de l'ouvrage de Franck Frigosi, celle de l'islamophobie. La libre pensée réfute ce terme d'islamophobie comme étant un piège et refuse de l'utiliser et de le cautionner d'une quelconque manière. L'islam est une religion, donc une conception philosophique et métaphysique du monde, ce qui est critiquable en soi. Mais il ne peut y avoir de racisme entre une conception philosophique ou métaphysique. Il suffirait d'en changer ou de devenir apostat pour ne plus subir le racisme, c'est une plaisanterie. Mais il y a bien une véritable haine entre celles et ceux qui s'y reconnaissent et la pratiquent, notamment les Arabes et les Africains. C'est pourquoi la libre pensée utilise le terme de racisme anti-musulman, qui, lui, malheureusement existe bien, et on en voit les effets réactionnaires, désastreux, meurtriers, tous les jours. Parler d'islamophobie. Même pour le combattre, c'est cautionner de fait et à l'envers une religion. Et cela est inacceptable pour la libre pensée et les libres penseurs. Nous plons notre position de toujours. Nous ne devons aucun respect pour les croyances et les religions que nous considérons comme la survivance organisée des vieilles superstitions. Nous ne respectons pas les croyances, mais nous respectons les croyants, lesquels doivent avoir toute la liberté de pratiquer leur culte comme ils l'entendent, et contre lesquels aucune discrimination n'est acceptable, discrimination qui doit être combattue avec la dernière force et la plus grande vigueur. C'est la ruse et la malice des cléricaux de tout genre que de mélanger croyances et croyants, conceptions métaphysiques et individus la partageant. C'est ce qu'indique la constitution de la très réactionnaire Ve République qui, citation, respecte toutes les croyances. Et non pas tous les croyants. Les réactionnaires cléricaux, pléonasmes, en font un bloc indissociable. En prenant l'un, les croyants, vous êtes obligés de prendre le tout, la croyance. C'est une atteinte intolérable à la liberté de conscience de chacun. On vous force à respecter ce que vous considérez comme non respectable, la superstition issue du fond du Moyen-Âge. La fière devise de la libre pensée, faite journal au XIXe siècle, a toujours été: la tolérance s'inscrit dans la sphère des faits et non dans celle des idées. L'ouvrage de Franck Frigosi est remarquable par sa précision et un formidable outil pour comprendre et, comme on ne le pense jamais pour rien, pour agir aussi. Je ne saurais, dit Christian Eschenne, que vous le recommander à lire et à découvrir. Je rappelle donc que cette recension de Christian Eschenne concerne le livre de Franck Frigosi, Gouverner l'islam en France. Voilà, donc c'est terminé pour cet article qui a donc été publié dans le Mediapart. Et je vous propose maintenant d'en venir au choix musical de cette chronique. Je vous propose pour aujourd'hui d'écouter un musicien, un harmoniciste. L'harmonica a une place très importante dans le blues et de nombreux interprètes, chanteurs et musiciens ont utilisé l'harmonica pour accompagner ces chansons. Alors aujourd'hui, et je pense que nous aurons d'autres occasions d'écouter des harmonicistes, je vous propose Sonny Boy Williamson, I'm a Lonely Man. Voilà, nous écoutons et je vous donne rendez-vous tout de suite à la prochaine chronique du groupe Fetzeler, qui se tiendra donc le lundi 24 février. Et là, je pense que ce sera en direct à nouveau. Merci, bonne semaine.
Lonely man, and I don't like being by myself.
La, 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 la.
I'm a lonely man, and I don't like being by myself. You can't be with me, baby. I'm gonna find myself somebody else. I am so disgusted. I just can't sleep at night. So disgusted, baby, till I just can't sleep at night. I go to eat my breakfast in the morning and my teeth and tongue begin to fight. Talk, I will talk for you. You don't have to walk, little girl. You know I'll take time and walk with you. Let me hold your hand, little girl. I'll make you understand. You know you ain't nothing but a little girl. You forgot I was your man.
C'était la chronique du groupe Fetzeler de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fetzeler lpdordogne.fr toutes les chroniques du groupe Fetzeler sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi 11h30.